Bonjour, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à présenter un outil développé par un groupe de diabétologues de Midi-Pyrénées pour aider à l'éducation thérapeutique du patient diabétique en pratique libérale. Nous l'avons appelé la checklist. Les bases de notre réflexion, tout d'abord, la définition de l'éducation thérapeutique par l'OMS comme un processus d'apprentissage systématique centré sur le patient qui fait partie intégrante du traitement et de la prise en charge qui concerne sa vie quotidienne et son environnement psychosocial qui implique autant que possible sa famille et ses proches. C'est un processus permanent qui doit donc être adapté à l'évolution de la maladie et au mode de vie du patient, donc une prise en charge à long terme. Elle est multiprofessionnelle et elle inclut une évaluation du processus d'apprentissage et de ses effets. Ensuite, nous nous sommes appuyés sur les recommandations émises par l'URCAM lors de son séminaire « Dépistage et prise en charge du diabète de type 2 » qu'a l'organisation pour demain. L'URCAM recommande qu'une éducation initiale soit entreprise pour chaque patient dans les mois qui suivent le diagnostic de diabète avec un souci d'accessibilité et de proximité, donc le plus souvent en dehors des hôpitaux. Qu'à chaque étape de la maladie, l'éducation soit adaptée aux besoins des patients. Cette approche doit donc reposer sur un diagnostic éducatif, prenant notamment en compte les différents stades d'acceptation de la maladie. Et enfin, les différents orateurs ont déjà évoqué la particularité de l'exercice libéral et cet écueil dénoncé par Rémi Gagnère, que les pratiques éducatives libérales prennent souvent la forme de consultations mixtes de soins et d'éducation, qu'elles sont plus souvent basées sur de l'information plutôt qu'une réelle éducation. Ensuite, les règles de partir des connaissances du patient pour établir une stratégie éducative et d'évaluer les acquis, ce qui est de même niveau d'importance que l'évaluation bioclinique. Donc, avec toutes ces références, nous nous sommes réunis un grand nombre de fois pour harmoniser nos pratiques professionnelles dans le cadre de l'éducation thérapeutique du diabète de type 2. Grâce à un travail collégial, nous avons élaboré un ensemble de fiches récapitulant les objectifs indispensables au savoir et au savoir-faire dans plusieurs circonstances de vie. L'instauration d'une insulinothérapie en ambulatoire, son prérequis, l'apprentissage de l'autosurveillance, la gestion des hypoglycémies et de l'acétone, ainsi que la prise en charge du pied diabétique. Ces fiches sont rassemblées en une checklist qui permet d'évaluer rapidement les connaissances du patient lorsque nous le voyons pour la première fois sur les différents thèmes et de planifier avec lui un programme d'éducation adapté sur un nombre donné de séances. C'est donc un contrat qu'on passe avec lui. Voilà ces fiches qui sont en matière semi-rigide et d'un format permettant une manipulation aisée, qui sont reliées par un système permettant une consultation en éventail. Cet outil est utilisable en consultation, donc quelle que soit l'ancienneté du diabète et l'expérience antérieure du patient. À propos de chaque thème, chaque fiche permet d'explorer rapidement ses connaissances sur les sujets utiles à la bonne gestion du diabète, notamment hypoglycémie ou acétone, et vous noterez la possibilité de rajouter des consignes pour chaque thérapeute. D'autres fiches concernent un moment particulier de la maladie où de nouvelles connaissances doivent être acquises, comme la mise en route de l'insuline et l'apprentissage de l'autosurveillance. Ces fiches permettent d'évaluer le geste en fin d'apprentissage ou dans le cadre du suivi, en posant des questions clés et en leur demandant de nous montrer comment ils font. Ceci permet de cibler un dysfonctionnement pour remettre le patient en situation d'apprentissage. Les résultats de cette évaluation pourront être consignés sur une grille intégrée au dossier du patient avec une appréciation de type acquis-non acquis. Cette grille permet de ne pas oublier un message à délivrer, c'est donc une aide pour le médecin, d'évaluer ce que les patients retiennent et c'est une aide à la rédaction de la lettre au médecin traitant faisant état du niveau de connaissance de son patient, des objectifs à atteindre et du contrat passé avec lui, du contrat éducatif. Chaque fiche a été testée par deux ou trois diabétologues et notre sous-groupe de TARP s'est attaché à l'étude de la fiche pied diabétique Pourquoi ce choix ? Le diabète de type 2, comme vous le savez, est la principale cause d'amputation en France, et ce, malgré tous les livrets de recommandations édités par les différentes firmes pharmaceutiques. Il apparaît donc que remettre une brochure n'entraîne pas de modification de comportement. C'est pourquoi nous avions, préalablement à ce travail, créé à Tarbes une association multiprofessionnelle, l'Association Pyrénéenne pour la protection du pied diabétique, qui est composée de podologues, d'infirmières libérales, d'angiologues, de dermatologues, de diabétologues quand même, et de tous les spécialistes concernés par le pied diabétique. Cette association a organisé des séances d'éducation à la prévention des plaies du pied, une après-midi par mois, au centre d'examen de santé de la caisse primaire, sessions ludiques et interactives auxquelles les diabétiques étaient invités à participer avec leurs conjoints. Là, je vous présente deux ateliers. L'atelier trie des bons et mauvais produits et outils de soins d'hygiène. Les patients se rassemblent autour de deux bassines. Ils discutent entre eux des avantages de tel ou tel antiseptique et des risques de tel ou objet pointu ou des coricides. Et ce qu'ils se disent entre eux aura beaucoup plus de poids que ce que les soignants pourront leur dire. Pour l'atelier chaussage, c'est un peu pareil. Les patients sont également rassemblés. On leur fait circuler un certain nombre de chaussures, elles ne sont pas belles, vous en conviendrez, mais ils doivent les critiquer, rechercher les coutures intérieures, critiquer le matériau, si c'est en plastique, le talon, etc. Donc cette action était réalisée grâce à des fonds d'aide à la qualité des soins de ville qui n'ont pas été renouvelés, mais nous avons intégré ces ateliers aux sessions d'éducation à la prise en charge du diabète de type 2 que nous faisons en externe à l'Ormeau sur 3 journées. Le problème dans le pied diabétique, c'est qu'on en dit souvent trop à ceux qui n'ont pas de facteur de risque et trop peu à ceux qui ont déjà une diminution de la sensation douloureuse. Alors, à la suite de l'étude de Rit Najarian, le groupe international d'études du pied diabétique a proposé une gradation du risque podologique en 4 niveaux. Le grade 0, en l'absence d'artérite ou de neuropathie, il peut y avoir des troubles morphostatiques mais indépendants du diabète, comme hallux valgus. Le grade 1 est défini par un défaut de perception de la pression du monofilament sur les tattes métatarsiennes et sur la pulpe du gros orteil. À ce niveau, il y a une multiplication par 5 du risque annuel de survenue d'une ulcération. Le grade 2 associe à la non-perception du monofilament soit des troubles morphostatiques, soit une artérite, et à ce stade, il y a une multiplication par 10 du risque podologique annuel. Le grade 3 est défini par un antécédent d'ulcération chronique ayant duré plus de 3 mois. Cela multiplie par 25 le risque podologique, soit un risque absolu de récidive dans l'année de 30 à 40%. Nous avons donc décidé d'adapter notre éducation au niveau de risque. Pour les sujets jeunes, à faible risque, des mesures simples concernant l'hygiène des pieds, parce que les patients doivent prendre de bonnes habitudes, comme couper leurs ongles droits et pas trop courts, ne pas marcher pieds nus, etc. Le grade 1 nécessite une inspection quotidienne à la recherche de lésions qu'ils peuvent déjà ne pas sentir, avec l'aide si besoin d'un miroir ou de l'entourage. C'est à ce stade que l'éducation en groupe est la plus profitable, en apprenant par exemple à passer systématiquement la main dans la chaussure avant de l'enfiler, pour s'assurer qu'aucun objet blessant n'y ait glissé. Le grade 2, les mêmes mesures mais renforcées, en insistant sur l'auto-examen quotidien. Pour le grade 3, la formation doit être faite dans des centres de référence et ils doivent avoir des soins podologiques mensuels. Ainsi, lorsqu'on revoit ces patients éduqués en groupe, mais en libéral, je vous fais remarquer, c'est dans une clinique, on peut apprécier, grâce à la fiche soins des pieds, ce qu'ils ont retenu de cet enseignement. Par exemple, leur savoir-faire. Comment taillent-ils leurs ongles ? Leurs pieds sont-ils régulièrement cremés ? Savent-ils bien choisir les chaussures ? Leur savoir, peuvent-ils citer 3 lésions à rechercher ? Les mycoses interdigitales, l'hyperkératose, etc. Est-ce qu'ils peuvent citer 3 dangers ? Est-ce que leur aptitude au niveau de la vue et de l'entourage est-elle compatible avec cet examen ou ont-ils la possibilité d'une aide de l'entourage ? Leur savoir-être, ont-ils consulté un podologue s'ils sont dans un grade 2 ou 3 ? Marche-t-il encore parfois pieds nus ? Ont-ils passé devant nous la main dans la chaussure avant de l'enfiler ? Pour notre étude, nous avons comparé deux groupes de patients. Certains éduqués, donc soit par l'après-midi au centre d'examen de santé, soit au cours des sessions de 3 jours d'éducation en général au diabète de type 2 en externe en clinique, et un groupe de patients dits naïfs, mais à qui nous avions remis simplement une brochure de conseils. Et nous avons évalué, d'une part, le geste technique selon 2 échelles, une échelle de fréquence. Est-ce qu'ils font leur inspection des pieds ou est-ce qu'ils lavent leurs pieds quotidiennement ? C'était côté 3, plusieurs fois par semaine, c'était côté 2, ou quelques fois par mois, c'était côté 1. Et également, analytique, est-ce qu'ils font le geste correctement en regardant dessus, dessous, avec un miroir si nécessaire ? On est à côté leur connaissance. Est-ce qu'ils peuvent citer 3 instruments bon pour soigner les pieds ? Est-ce qu'ils savent citer 3 lésions à rechercher ? Est-ce qu'ils peuvent citer 3 dangers, un produit coupant, une cause de brûlure et surtout les chaussures mal adaptées ? Et comment choisissent-ils leurs chaussures ? Avec cette cotation, le score maximum pour un patient qui aurait rempli toutes les consignes, c'est 45. Et cela nous a permis de les classer en acquis, ceux qui avaient plus de 30 points, moyennement acquis, au-dessus de 15 mais inférieur à 30, et non acquis, inférieur à 15. Nous avions étudié pour ces patients différents critères, l'âge, l'ancienneté du diabète, l'équilibre par l'hémoglobine A1C, le nombre de complications et le grade de risque podologique, ainsi que le niveau socioculturel, le mode de vie et l'activité physique pour voir s'il existait une relation, par exemple, entre le score obtenu et le grade de pied à risque. Est-ce que par hasard, les gens ayant des pieds à risque sont plus motivés pour modifier leur comportement ? Ou est-ce que les patients les moins observants sont ceux qui ont le plus de complications des pieds ? Eh bien, nous n'avons pu retrouver aucune corrélation entre le score et le grade de pied à risque. La seule corrélation que nous avons trouvée, c'est que le score du groupe éduqué était quand même, heureusement, supérieur à celui du groupe naïf. Mais même des diabétiques éduqués ont encore des conduites à risque, par exemple l'usage de ciseaux à bout pointu. Ou le choix des chaussures non adaptées, malgré de bonnes connaissances théoriques sur le choix des chaussons. Les raisons invoquées, c'est le prix ou l'esthétique. En synthèse, cette fiche pied a permis non seulement de faire un diagnostic éducatif en explorant les connaissances du patient, ses possibilités physiques, sa vue, sa souplesse et son comportement, et de les confronter à la réalité par le simple examen de ses pieds et de ses chaussons, d'où des réajustements éducatifs pour lui et son entourage. De poser un contrat d'éducation, il semble que vous n'ayez pas bien compris la nécessité d'utiliser une crème hydratante, et de faire un suivi éducatif grâce au courrier au médecin traitant, à qui on peut par exemple demander de surveiller la disparition des mycoses, ou on peut transmettre les informations ciblées à l'équipe soignante. Alors en conclusion, je dirais que l'utilisation de la checklist, donc de l'ensemble des fiches, en consultation, est évolutive au cours du temps. On peut les utiliser quelle que soit l'ancienneté du diabète et l'expérience antérieure du patient. C'est un bon outil pour le diagnostic éducatif, un aide-mémoire pour le médecin et un outil d'évaluation, soit en fin d'apprentissage permettant des réajustements, soit dans le cadre du suivi, lors d'un incident comme une hypoglycémie, on peut reprendre l'item en cause, ou en dehors de tout incident, on peut poser des questions clés pour voir s'il saurait gérer une acétone, par exemple. Les résultats consignés sur une grille sont donc intégrés au dossier du patient et sont évolutifs, parce qu'on peut faire l'évaluation à plusieurs périodes. Et cela mène à un contrat éducatif passé avec le patient et aide à la rédaction de la lettre au médecin traitant. C'est un processus d'évolution formative. Elle prend en compte l'évolution de la santé du patient et de ses potentialités. Elle incite le patient à renforcer ses acquisitions et favorise de nouveaux apprentissages en fonction des événements de vie et des innovations thérapeutiques. Et enfin, pour l'équipe, elle a aidé à diffuser des messages homogènes et cohérents, compréhensibles par tous, le patient, l'entourage et les soignants. Je vous remercie. Je termine quand même en remerciant les diabétologue du groupe de réflexion Midi-Pyrénées dont vous avez les noms ici, et en particulier mes deux collègues de Tarbes, Geneviève Paillet et Martine Perron, ainsi que tous les membres de l'Association pyrénéenne pour la protection du pied diabétique pour leur esprit d'équipe et le laboratoire Bayer Diagnostic pour son soutien logistique.